Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Et nous sommes là, 6h07, un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Très heureux de vous retrouver bien sûr en ce 14 novembre 2020. Jusqu'à 10h, c'est votre week-end des experts. Et on sera là demain avec Jean-Luc Moreau, entre 7 et 10 pour l'automobile. Et entre 6h et 7h pour De quoi je me mêle. J'espère que tout va bien de votre côté, un bon réveil. On salue aussi tous ceux qui travaillent en ce week-end et qui sont fidèles au poste. Peut-être êtes-vous dans votre voiture, prudence. Et merci en tout cas d'avoir choisi RMC pour vous réveiller. Qu'est-ce qui va se passer d'ici 10h? Ben vous le savez, hein, vos experts sont là, présents. Tout à l'heure, entre 9h et 10h, Raphaël Grably sera à mes côtés pour la vie numérique. Comment se divertir à la maison? C'est vrai qu'on a un petit peu plus le temps en ce moment. Eh bien, on reviendra un petit peu sur les nouveautés en matière de SVOD, de divertissement que vous pouvez avoir à la maison, avec notamment le service de l'INA, qui est en fait un petit peu un Netflix de l'histoire de la télévision française, qui est passionnant. Nous aurons l'un des porte-parole de ce service qui sera avec nous. Et puis on parlera aussi des nouveautés Google tout à l'heure, entre 9h et 10h. 8-9, vous le savez, c'est Christian Ricard pour la forme et la santé. Et on évoquera l'hygiène à la maison, important en ces périodes, on va dire, épidémiques. Et on évoquera, entre autres, la vapeur. Et le savon noir, voilà. Si vous nettoyez tout avec la vapeur et le savon noir, en théorie, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. 7-8, ce sera la maison avec Christian PC, le bricolage de la maison. On évoquera les rideaux, justement, dans la maison. Quel est leur rôle? Quelles sont les tendances aussi? Et comment les installe-t-on, les rideaux? C'est vrai qu'on a un peu plus le temps pour bricoler à la maison en ce moment. Pourquoi ne pas changer ces rideaux, tiens? Et pour débuter, vous le savez, entre 6 et 7, c'est le jardin. Et le jardin, c'est avec Patrick Mulan. Bonjour, monsieur Miu Miu.
Bonjour, monsieur François. Bonjour à tous. Très, très bienvenue dans nos jardins qui ont pris un peu la fin de leur couleur. Là, je pense que ça va se terminer bientôt. Tiens, je voulais dire par rapport à Christian Ricard, au jardin, c'est pareil. Savon noir, très utile pour l'insecticide. Vapeur, désherbage à la vapeur.
Ça, c'est pas mal.
Vous voyez, donc, en fait, il y a des connotations similaires entre l'extérieur et l'intérieur.
Voilà, donc tout cet équipement, vous le gardez aussi pour le jardin. Patrick, on va passer une heure ensemble avec vos questions. Bien sûr, Annick sera là dans une seconde au 32-16. Et puis, votre conseil de l'expert, on évoquera les narcisses et les jonquilles. C'est le moment de les planter.
Oui, oui, on est un petit peu... C'est pas la fin, mais c'est le bon moment, quoi, on va dire.
Et puis on parlera de légumes tout à l'heure, Patrick. Ça sera notre gros sujet de ce samedi.
Raconter un petit peu l'histoire de ces légumes. Moi, je suis toujours très étonné de voir ce que l'on met dans nos assiettes et se dire comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Et est-ce que c'est toujours bien naturel d'ailleurs? Parce qu'en fait, il y a des légumes, c'est pas la plante qu'on va récolter comme ça dans la nature. Ça a été amélioré parfois depuis des millénaires et on en parlera.
Vos questions sur ces sujets, par exemple, sur le fait de planter des narcisses et des jonquilles, sur les légumes, dès maintenant, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, vous le savez, à tout moment, vous pouvez joindre notre expert jardin et le questionner, profitez-en. Voilà, vous savez tout, bienvenue, c'est parti pour votre week-end des experts et on attaque avec Annick, qui est avec nous. Bonjour Annick.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour, chère Annick.
J'écoute votre émission avec beaucoup d'attention, qui m'apprend beaucoup de choses. Et voilà, maintenant, j'ai un problème de vue sur ma maison qui s'est posé sans que nous soyons prévenus. Un matin, nous nous sommes réveillés avec le voisin qui avait ouvert deux Vélux en plein sur notre maison, notre terrasse, notre chambre, qui nous ce problème de vue qui est... Donc, je voulais avoir votre avis concernant des grands arbres à planter pour cacher ce vis-à-vis qui nous pose un gros problème.
Bah, c'est-à-dire qu'en général, quand même, les Vélux, c'est pas fait comme des fenêtres pour pouvoir regarder à travers. Hein. Souvent, on fait ça pour
aérer. Si, ils sont posés très très bas, justement. Ah, oui, le toit est très pentu, ils sont posés très bas.
Parce que j'ai vu les photos, là, vous avez envoyé, ça me semblait pas très apparent, mais enfin, peu importe. Vous avez déjà dans votre jardin un grand conifère que j'ai pas trop vu sur la photo. Bon, je voyais pas trop ce que c'était, mais je veux dire, ce type d'arbre, c'est à peu près le seul que vous pouvez imaginer mettre en place pour avoir une protection, parce que vous voulez quelque chose qui soit persistant, donc qui soit en feuillage toute l'année. Au niveau des feuillus, à part les eucalyptus qui poussent effectivement très très vite, mais qui sont pas généralement très dense, si vous voulez. Ça fait plutôt quelque chose d'érigé. Un eucalyptus, il faudrait en mettre 2-3 à ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose, parce que c'est quelle hauteur que vous voulez ?
Eh bien, c'est-à-dire, ça va, il faut au moins 5-6 mètres.
Voilà. Donc, franchement, vous n'avez que des conifères de type cyprès ou faux cyprès, donc Camée cyparis, ou tuya, qui vont vous donner ce résultat-là.
Alors, on m'avait parlé de magnolia.
Oui, mais attendez, un magnolia de 5 mètres à 6 mètres de haut, ça existe largement. Mais avant que ça atteigne cette hauteur-là, il va vous falloir 10 ans.
Ah oui, mais je ne peux pas en planter un grand directement.
Bah, ça dépend quel est le moyen que vous avez dans votre portefeuille. Parce que un magnolia de 5 mètres de haut à planter directement, on va dire que c'est... Si vous n'avez pas 10 000 euros, c'est même pas la peine de l'imaginer, quoi. Parce attendez, rien que la dimension de la plante, avec sa motte, il vous faut une grue pour planter ça.
C'est ça.
Voilà.
Oui.
Donc ça
oui.
va vous coûter forcément très très cher. Puis un arbre très très grand, très âgé, enfin surtout un magnolia, un conifère, ça coûtera moins cher, mais la plantation, elle coûtera toujours le même prix. Si vous voulez tout de suite mettre quelque chose de cette taille-là, hein, ça c'est évident. Vous savez, les végétaux, c'est naturel. C'est-à-dire que donc vous pouvez pas suraccélérer la croissance. Ça c'est pas possible. Donc, si on dit par exemple qu'un magnolia de 5 mètres de haut, il faut à peu près une quinzaine d'années au moins pour avoir cette taille-là, ou je dirais même peut-être 20 ans, il faut 20 ans de culture. Après, il a fallu le transplanter plusieurs fois, parce que si vous laissez une plante pendant 20 ans dans un endroit et qu'un jour ou l'autre vous l'arrachez, il n'y a aucune chance que ça reprenne. Donc dans les pépinières qui font ces gros sujets-là, très régulièrement, on va dire tous les 3 ou 4 ans, ils vont faire ce qu'on appelle un cernage, donc comme s'ils arrachaient la plante sans l'arracher, de manière à ce que les racines restent très concentrées autour d'une motte qui est transportable. Après, le jour où ils l'arrachent, ils vont vous faire ce qu'on appelle un bac, c'est-à-dire qu'ils vont mettre des morceaux de bois tout autour de la motte pour qu'elle puisse tenir pendant le transport. Donc après, il faut l'arracher, la mettre sur un camion, avoir la grue pour ça, pour faire le trou, avec généralement une pelleteuse, parce que quand même, ça va faire un très gros trou. Donc vous voyez le travail considérable que ça représente, donc c'est forcément un coût. C'est forcément un coût. Donc quand je vous conseille l'eucalyptus, c'est parce que si vous achetez un eucalyptus, mettons, de 2 mètres 50 de hauteur, ça va vous coûter 30 à 40 euros, et ça pousse d'un mètre 50 par an. Largement,
ça va vite.
Mètres.
Ça va vite.
Donc, vous voyez, on va dire qu'en trois ans, vous allez avoir tout de suite la plante dont vous allez avoir rêvé à un prix relativement
très
correct.
Vous voyez.
Oui, bien sûr, mais il faut attendre 2-3 ans et voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a plus aucune intimité sur notre maison.
Ben à ce moment-là, vous envisagez de mettre une palissade de 5 mètres de haut, c'est pareil, ça va
vous
coûter très très cher.
Mmh.
Et en plus, ça prend au vent. Ou alors il faut peut-être que vous mettiez un auvent pour que ça puisse aussi protéger l'endroit où vous voulez pas qu'on vous regarde. Et puis peut-être espérer aussi que les voisins ne soient pas hyper curieux et n'aient pas les yeux branchés en permanence sur votre propriété.
Après, il y a les roseaux qui poussent vite, mais bon, c'est un peu...
Ah, sur 5 mètres de haut, non.
Ah, c'est voilà.
Ah, non.
C'est un peu haut.
Les cannes de Provence qui sont. Il y a les bambous. Alors, il y a les bambous, mais c'est pareil. Pour avoir des bambous de 5 mètres de haut, rapidement, il faut quand même déjà acheter des vieilles touffes. Alors, ça vous coûtera moins cher que ce que je disais au début.
Ça montera plus vite ou pas?
Ah ben, si vous achetez par exemple des bambous déjà adultes, dont mettons 2-3 cannes ont déjà la hauteur adéquate, dans l'année, vous aurez de nouvelles cannes de la même taille.
Ouais, c'est ça.
Le bambou n'est pas un arbre, c'est une herbe.
Mm-hmm.
Donc ça va pousser à la hauteur minimale des cannes qui existent déjà. Donc là, c'est déjà peut-être un tout petit peu plus envisageable. Faut aller, pour ce genre de bambou de très grande taille, faut aller chez un expert, chez un spécialiste. Il y a la bambouseraie, il y a une pépinière qui s'appelle la pépinière de la bambouseraie qui fait ce genre de grand bambou. C'était une bonne idée, monsieur François.
Pour une fois, après toutes ces années. 6h17, on salue Christophe Boulanger qui nous fait un petit coucou sur Direct Studio. On salue aussi Arthur qui nous dit, comme tous les samedis matins, c'est avec vous que je suis. Merci Arthur. sûr. Et je vous rappelle que lorsque vous nous posez vos questions jardin au 3216 ou surtout via l'appli RMC Direct Studio, laissez-nous votre numéro de téléphone parce que Alexandra qui voilà derrière les manettes a besoin de votre portable pour vous rappeler. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas votre numéro, c'est important. Il est temps de retrouver les conseils de Patrick maintenant.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC. L'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Es-tu narcisse ou jonquille ? Je
voilà.
suis narcisse et jonquille.
Ça, c'est
1914 ?
Je ne sais pas. Kevin a dû acheter, je pense, l'encyclopédie des vieilles chansons que personne ne connaît.
Oui, mais en tous les cas.
Paru aux éditions Poète Poète, et voilà le résultat.
Oh, mais bravo, faut
ah
pas
oui, non, il est très très fort, très très fort. Bravo Kevin. Tu m'en feras une copie, s'il te plaît. Non, je plaisante. Alors attention, on va parler.
Une chanson du Gaufret des Jonquilles au dernier lilas.
Ah oui.
Ou au premier lilas, je ne sais plus si c'est le dernier.
Bon Patrick, pour commencer, une question toute simple. Quelle est la différence entre Narcisse et Jonquille ? Ça serait bien de commencer par le commencement, en fait.
Alors on va dire quasiment aucune, mon capitaine, enfin plutôt une toute petite, parce que les narcisses, c'est l'ensemble des espèces du genre Narcissus. Donc il y en a un peu plus d'une centaine, dont beaucoup sont d'ailleurs des hybrides naturels. Et la jonquille, elle, c'est un narcisse. C'est Narcissus jonquilla, qui est sauvage dans nos pays, notamment dans la partie du sud-ouest de l'Europe. On en voit beaucoup en Espagne et au Portugal, des Narcisses jonquilla. Et puis, on peut appeler aussi la jonquille des bois, le Narcissus pseudo-Narcissus. Alors, c'est Oula. Bizarre de s'appeler Narcisse faux ou pseudo-Narcisse. Mmh. Mais bon, qui est celui qui est la trompette? Vous savez, on voit souvent des enfants au tout début du printemps qui vous proposent des bouquets de ces fleurs-là, qu'ils appellent d'ailleurs des jonquilles, et qui est donc une plante totalement sauvage, qui se naturalise bien dans les parties de sous-bois où le sol est un petit peu frais. Et il est très précoce, puisque dès le mois de mars, on a souvent des floraisons. Donc ça, on peut l'appeler jonquille des bois, mais voilà, c'est souvent, d'ailleurs si vous appelez tous les narcisses de votre jardin des jonquilles, personne ne vous en voudra.
Comment peut-on décrire rapidement les narcisses, Patrick ?
Alors ce sont des plantes bulbeuses, donc ça fait vraiment un bulbe qui appartiennent à la même famille que les amaryllis, dont les amaryllidacées. Donc ça fait des feuilles à la base qui peuvent atteindre jusqu'à 75 cm de hauteur chez les plus grands et une quinzaine chez les plus petits, et qui ont la particularité d'être rubanées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à un ruban, ou elles sont cylindriques. Il n'y a pas vraiment de tige, en fait c'est comme la hampe florale qui porte parfois une seule fleur ou parfois un petit groupe de fleurs, et qui ont donc souvent ces fleurs, les tépales, c'est-à-dire les sépales transformées en pétales autour d'une couronne, c'est-à-dire que tous les vrais pétales se sont soudés entre eux pour former une couronne qui peut être courte ou qui peut être longue, comme on disait, la trompette, une forme de trompette. Voilà.
Patrick, quels sont les narcisses que l'on cultive couramment dans nos jardins ?
Alors, il faut dire que tous les narcisses pratiquement qu'on cultive aujourd'hui, que vous trouvez dans vos jardineries encore en ce moment, sont des hybrides. Alors, il y a des groupes qui ont donc les fameuses trompettes dont j'ai parlé, donc la fleur qui est très allongée. Vous avez celui qui a une grande couronne, donc un peu plus court que la trompette, et puis la petite couronne qui est pratiquement comme un anneau. Vous en avez qui sont à fleurs doubles, vous en avez aussi qui ont des grappes de fleurs qu'on appelle souvent les triandrus, qui sont des petits narcisses sympathiques, et puis les cyclamineus. Alors les cyclamineus, ils sont drôles, c'est comme un narcisse trompette, mais très étroit, plus petit, très très mignon.
Ah oui. Est-ce que l'on peut trouver aussi de vraies jonquilles à planter ?
Alors oui, vous avez des hybrides dans le groupe des narcisses jonquilla, donc qui ont souvent des fleurs parfumées, donc ça c'est quand même très très bien, qui sont pas forcément solitaires, vous pouvez en avoir parfois 3, 4, 5, et qui ont une petite couronne, donc une sorte de coupe, et qui sont avec des feuilles presque cylindriques, qui fleurissent en avril même, ils sont petits, ils ont en dessous de 10 cm de hauteur.
Vous parliez du parfum, il y a beaucoup de narcisses qui sont parfumées comme ça ?
Pas énormément, mais ceux qui le sont, je peux vous dire que c'est une merveille. Et je vous conseille notamment Paperwhite. Paperwhite qui fait partie d'un autre groupe qu'on appelle les Tazeta. Il est blanc. Et alors, il y a les narcisses des poètes aussi. Mais vraiment, Paperwhite, vous le trouvez facilement dans le commerce. C'est le plus parfumé, à mon avis. Et vous savez que ce parfum est quand même très, très complexe. On a une sorte de mélange de jacinthe, de jasmin, et ils ont été utilisés, les parfums de Narcisse, on en a un petit peu dans le numéro 5 de Chanel, on en a dans le parfum qui s'appelle Madame Rocha, dans l'eau de Narcisse, il y a l'eau de Narcisse bleue de chez Hermès, alors le Narcisse bleu je connais pas, il y avait Magie Noire de Lancôme, vous avez Force de Van Cleef, tout ça ce sont des parfums dans lesquels on a une touche de Narcisse.
Est-ce que tous les narcisses peuvent se cultiver sans problème dans toutes les régions ?
Alors, quasiment tous, parce que comme je vous disais, ils sont pour certains originaires du sud de l'Europe, mais globalement, ce sont des plantes qui sont quand même très rustiques. Donc, dans les espèces botaniques, certains sont particuliers parce qu'ils ont besoin de chaleur et de sécheresse en été. Et ils fleurissent pour certains très très tôt, dès la fin février. Là, cette année d'ailleurs, il faut bien le dire, le fait d'avoir eu très peu d'hiver, on a eu des narcisses dès le 15 février. Alors, dans les régions où il risque d'y avoir du gel, ce type de narcisse peut avoir des problèmes, parce que si dès février il sort et que là il y a un gros coup de gel, ça va risquer de le détruire.
Est-ce que toutes les narcisses fleurissent au printemps ?
Eh ben non. Et il y en a un très 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 bizarre qui s'appelle Narcissus viridiflorus. Qu'est-ce qu'on entend ? Fleur verte. Alors il est, contrairement aux narcisses qui habituellement sont jaunes ou blancs ou orangés, eh bien lui il est vert et il fleurit en octobre et novembre.
Ah oui.
Donc c'est tout à fait bizarre et c'est rare. Et il est tellement bizarre que même ses fleurs, elles sont nocturnes, dites donc. Bien. Donc il est vert, il est nocturne et il fleurit en automne. Donc le truc qui a rien compris au film, c'est différent.
Il cultive sa différence. Bah, écoutez, c'est très bien. C'est maintenant qu'il faut planter les narcisses.
Oui, alors vous avez jusqu'à la mi-décembre. Vous pouvez commencer dès le mois d'octobre. Alors sachez qu'il faut planter quand même à une profondeur égale au moins une fois et demie sa hauteur. C'est-à-dire qu'un bulbe de narcisse, ça mesure à peu près 6-7 cm, donc il faut faire un trou d'une quinzaine de centimètres de profondeur, de façon à ce qu'il soit quand même bien enterré. Sol, comme pour tous les bulbes, léger, pas de fumier frais, évidemment. Plutôt fertile, parce que le narcisse, ça va bien se naturaliser, ça c'est quand même très très bien. Et pensez plutôt à le mettre à mi-ombre, parce que pendant la période de végétation, à part ceux dont je parlais tout à l'heure, qui ont besoin de sécheresse estivale, la plupart aiment bien quand même avoir une petite fraîcheur, donc que ça soit pas trop desséchant pendant l'été.
Eh bien voilà, Patrick, on a fait le tour des narcisses. Peut-être rajouter qu'il y a un jardin que vous pourriez nous conseiller, qui est superbe, et qu'il faudra aller visiter au printemps prochain.
Faut aller à Berchigrange, c'est dans les Vosges, c'est à l'est d'Épinal. Vous avez la plus grande collection de narcisses d'Europe. Thierry et Monique Dronet, ils sont à 650 mètres d'altitude. Ils ont 500 variétés différentes, François. Ouais. Donc leur jardin, qui est en plus entretenu d'une façon fabuleuse, est couvert de narcisses au début de...
Ça doit être
ils sont à 650 mètres d'altitude, vous pouvez y aller début avril. Là, vous aurez vraiment l'explosion de ces fleurs. Et c'est vraiment, vraiment remarquable. Ce jardin Berchigrange, je peux vous dire, essayez d'y aller un jour dans votre vie, vous ne le regretterez pas.
On salue Sony qui nous fait un petit coucou sur Direct Studio. Et puis tout à l'heure, on évoquait le problème de cette auditrice et peut-être pourquoi pas le bambou qui pourrait être une solution. On a Christophe qui nous dit « Je peux aider l'auditrice, j'ai plein de bambous à donner. J'en suis envahi dans la maison que je viens d'acheter. C'est juste un fléau. Il a des bambous qui font au moins 15 mètres de haut. »
Si, il y a des bambous qui font jusqu'à 40 mètres, mais pas en France. Mais en France, on peut avoir des bambous jusqu'à 20 mètres. Le problème... Là, ça va être de les arracher.
Mais oui, c'est ça.
Parce que des bambous de cette taille-là, je peux vous dire que la souche, mais c'est du béton. Donc, il faut vraiment des outils pour pouvoir faire ça. Mais sinon, et puis après, il faut les transplanter aussi quand même. Un bambou de 15 mètres. Parce qu'il ne faut pas le couper. Oui, ça, je vous le dis, c'est très, très important. Quand vous achetez un grand bambou ou quand vous déplantez un grand bambou et que vous voulez toujours qu'il pousse de grande taille, ne coupez surtout pas les grandes cannes. Si vous les coupez, vous allez avoir des toutes petites repousses et il faudra attendre plusieurs années.
Donc il faut vraiment arracher et garder la racine, etc.
Alors, la racine et la canne.
Oui. Et rappelons la robustesse du bambou. Il y en a qui font des échafaudages avec les bambous. C'est d'une résistance incroyable.
Des échafaudages sur des dizaines de mètres de hauteur. Allez à Hong Kong, vous avez des grands immeubles qui sont échafaudés en bambou.
Patrick, on va revenir dans un instant après la météo de Claire Navarro et on enchaînera avec vos questions, bien sûr, jardin, n'hésitez pas, 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On va parler aussi légumes dans quelques minutes, à tout de suite.
Je veux manger les légumes de mon jardin, recueillir l'huile de mes oliviers gober les œufs frais de mes poules.
6h-7h.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un légume pareil?
Votre jardin.
Tomates, pommes de terre, cerfeuils, ce sera facile. Une heure de travail par jour.
Un potager, en somme.
Exactement.
François Sorel.
Patrick Mulan.
Kevin le sait, c'est 5 fruits et légumes par jour au moins. Et ça se voit quand on voit sa mine superbe. On voit qu'il respecte cet engagement. Mon cher Patrick.
Oui.
Ça va faire plaisir à Christian Riquet, à votre sujet sur les légumes, là, je pense.
Oui, mais là, on va pas parler de la même chose que ce que nous dit.
Oui, mais tout l'écosystème légumes l'intéresse.
Voilà,
vous
tout
savez,
l'écosystème. Ben là, on va parler Christian. Un peu plus, oui, histoire, peut-être anecdote, etc.
Alors, pour bien cerner ce sujet, quelles sont les définitions que l'on peut donner au mot légumes?
Alors, c'est vrai que vous dites les définitions et vous avez raison. Si vous êtes botaniste, vous allez dire que le légume, c'est le fruit des plantes de la famille des légumineuses, qu'on appelle aujourd'hui les fabacées, c'est-à-dire une gousse. Alors donc, haricots, pois, fèves. Si vous consultez le dictionnaire, vous allez avoir une définition qui ressemble un peu à ça. Un légume est la plante ou une partie comestible d'une espèce potagère.
Et oui, c'est ça. Alors, la question est donc, qu'est-ce qu'une espèce potagère?
Alors, une espèce potagère, c'est une plante qui sert à faire le potage et qu'on cultive dans le potager.
Et oui.
Vous voyez un petit peu les liens étymologiques qui sont intéressants. Alors, c'est assez bizarre aussi de savoir que dans le langage de la cuisine, dans ce langage culinaire, le mot légume s'oppose à celui de fruit. Parce que le légume, c'est plutôt ce que l'on mange salé, alors que le fruit, c'est ce que l'on mange plutôt en dessert. Mais il faut savoir que pour les botanistes, beaucoup de légumes sont des fruits. Mmh. Par exemple, la tomate, le poivron, l'aubergine, par exemple, ce sont des fruits. Et on a aussi une autre notion un peu différente, par exemple, dans les plantes potagères, ce sont les condimentaires qui viennent simplement en assaisonnement. Et tout ce monde-là se cultive au potager.
Voilà, ne pas confondre vieil ami et potager, ça n'a rien à voir, hein. Faites attention s'il vous plaît. Quelles sont les parties de la plante que l'on consomme comme légumes, Patrick?
On va dire pratiquement toutes les parties d'un végétal arrivent un jour ou l'autre dans notre assiette. Si on prend depuis le bas jusqu'en haut, les racines, vous avez carottes, betteraves, radis, navets, panais, salsifis, ça ce sont des racines. Les tubercules sont les pommes de terre, le topinambour, la patate douce, des choses un peu moins connues comme le crône ou le cas du Pérou, par exemple, ou la poire de terre. On mange des bulbes aussi, ceux des oignons, de l'ail, de l'échalote. On mange des tiges qui n'en sont pas, celles du poireau, du céleri rave, du chou rave, par exemple, qui sont des tiges qui ont plutôt gonflé, qui ont grossi. Des toutes jeunes tiges, les asperges, ou les... On parlait de bambou, mais vous savez, le bambou est comestible. On mange les toutes jeunes tiges, qu'on appelle les turions, quand ça sort de terre. Le cœur de palmier, c'est aussi l'intérieur de la tige. On mange le pétiole des feuilles chez la bête ou poirée, chez le céleri branche, chez le fenouil. Le fenouil, les pétioles se sont resserrés les uns contre les autres pour faire une sorte de bulbe, mais ce sont des pétioles. La rhubarbe aussi, c'est un pétiole. On mange bien sûr des feuilles, les salades, les choux, les endives, les épinards, l'oseille, même le pissenlit sont des feuilles. Une des particularités bizarroïdes, par exemple, c'est l'artichaut, c'est un bouton floral. Mm-hmm. Il ne faut pas qu'il soit ouvert. L'artichaut est inconsommable lorsque la fleur est ouverte. Il faut vraiment que la fleur soit simplement en bouton. En revanche, la fleur elle-même, on en mange avec le chou-fleur, comme son nom l'indique, le brocoli. Alors, ce n'est pas exactement une fleur. C'est-à-dire, c'est le méristème, c'est-à-dire le tissu de croissance au niveau de la fleur qui s'est hypertrophié. C'est un monstre, tout à fait. Les fruits, on en a parlé, mais dans les fruits, il y a des choses bizarres que vous attendriez peut-être pas à entendre. Le haricot vert, par exemple, c'est un fruit.
C'est dingue, ça.
Oui, le pois mange-tout est un fruit, le gombo est un fruit. Bon.
L'avocat.
Bien sûr, l'avocat, la chayotte, l'aubergine, la courge. Et puis, on terminera avec les graines, qui sont très très importantes dans notre alimentation, et ça, le docteur Riquia doit frétiller.
Là, il frétille dans sa voiture,
parce que
je pense.
Les pois, les fèves, les haricots secs, les lentilles et les pois chiches sont des graines.
Des graines, d'accord.
Vous voyez, on a fait le tour de l'ensemble du monde végétal.
C'est très large. Hein,
c'est très très large.
Et oui. À quand remonte cette notion de légumes, Patrick?
C'est extrêmement ancien. Quand l'homme est passé de l'état de chasseur-cueilleur au moment du néolithique, c'est-à-dire à peu près il y a 12 000 ans, aux prémices de l'agriculture, eh bien, à ce moment-là, on a commencé, on va dire, à domestiquer, entre guillemets, les végétaux, à savoir à faire une sélection en prenant à la fois ceux qui étaient les plus productifs, ceux qui étaient les meilleurs au goût, et donc, et qui correspondaient bien aux besoins. Et le mot légume lui-même est arrivé au XVIe siècle, puisqu'on l'a vu s'inscrire dans la langue française à partir de 1531.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des légumes qui sont issus de la fleur sauvage française que l'on consomme encore aujourd'hui. Ben oui, pour certains qui sont encore à la mode.
Alors, le chou, même s'il a beaucoup évolué, le chou rave, le panais qui est vraiment une plante qu'on peut trouver sauvage encore aujourd'hui. Je disais les pissenlits tout à l'heure. Bien sûr, on peut. Moi, quand j'étais gamin, on allait récolter dans la nature des pissenlits jeunes et que l'on consommait. Le navet est français, la lentille. La carotte sauvage, alors la carotte sauvage, on la consomme plus, nous, on la donne aux lapins, mais on la fait évoluer parce que la carotte sauvage, la racine est blanche, comme le panais.
Quels sont les légumes les plus anciens encore consommés de nos jours ?
Alors, je vais encore faire plaisir à Christian Riquia. Il est sans doute, la lentille est peut-être le plus ancien des légumes, puisqu'on a trouvé en Iran des traces de lentilles cultivées à peu près 8 à 9 000 ans avant notre ère. Ça veut dire il y a 10 000 ans, vraiment au début donc de cette domestication du néolithique dont je parlais tout à l'heure. Alors, quand on traverse l'Atlantique, à cette époque-là, la pomme de terre a commencé à être vraiment généralisée par les Amérindiens du néolithique. Et puis, sans doute aussi l'oignon. L'oignon est un très, 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 très ancien légume. On en a vu beaucoup de représentations, notamment sur les tombes de l'ancienne Égypte, et à peu près 2000 à 2500 ans avant notre ère. Ça veut dire donc déjà 4000 à 4500 ans.
Est-ce qu'on peut considérer que certains légumes sont des plantes artificielles, Patrick ?
Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, très très peu de légumes que l'on consomme maintenant ressemblent à la plante d'origine. À la fin des sélections depuis des siècles que certains ont subi, ça n'a strictement rien à voir avec la plante d'origine. Si vous prenez par exemple la tomate sauvage, c'est une espèce de plante rampante qui fait des toutes petites boules de graines, de fruits, pardon, qui ont la taille d'un ongle à peu près. On a ça aujourd'hui.
Donc il a fallu que l'homme la façonne pour arriver aujourd'hui la tomate qu'on connaît.
Alors, on a à la fois sélectionné et après hybridé. C'est-à-dire qu'en fait, en croisant des espèces voisines d'une même plante, on a pu obtenir des améliorations. Il y a des choses aussi qui sont très très étonnantes. L'endive est vraiment un légume qui n'existe pas. Vous allez dire, il est fêlé, mais non. C'est une plante qui a été découverte totalement par hasard vers 1850 par un Belge qui s'appelait M. Brézier. Et il cultivait des chicorées sauvages.
D'où les endives, Brézier, ou ça n'a rien à voir ?
Brézier, non.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est Brézier, lui.
Pardon.
Et il cultivait des endives sauvages, et par inadvertance, il les a recouvertes de terreau. Et il s'est rendu compte que ça formait une sorte de petite pomme blanchâtre qu'il s'est mis petit à petit à améliorer par des techniques culturales de forçage. Et donc, c'est pas une plante qui, naturellement, fabrique cette pomme qu'on appelle un chicon dans le Nord et qui est tout à fait particulière. C'est un peu la même chose aussi avec le chou de Bruxelles, qui est une mutation qui a été provoquée par des agriculteurs belges avec des techniques culturales.
Bon allez Patrick, on va parler maintenant de la pomme de terre qui est incontournable dans nos assiettes et qu'on adore tous. Il a fallu beaucoup d'astuces pour faire accepter ce légume par les Français.
Oui, alors ça c'est drôle parce que la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées. Donc on l'appelait la morelle, et on a des morelles, donc notamment les daturas, dans notre pays, qui sont non seulement toxiques, mais quasiment mortelles. Donc lorsque cette plante a été rapportée par les conquistadors au XVIe siècle, puisque c'est un légume qui vient d'Amérique du Sud, la pomme de terre, eh bien, elle a d'abord été cultivée par les botanistes, et puis qui se sont demandé si elle n'aurait pas des propriétés médicinales. Petit à petit, on a commencé à la consommer, et en France, on n'en mangeait pas. Et il y a un arrêt, d'ailleurs, du Parlement de Paris en 1748, qui interdisait la culture dans le nord de la France. Donc il faut quand même se dire à quel point cette plante, elle s'était pas gagnée. Et puis on doit à Antoine Parmentier, qui avait été prisonnier en Allemagne où on mangeait déjà couramment des pommes de terre, d'avoir vraiment vulgarisé la pomme de terre. Alors comment il a fait ? Eh bien, on était en 1785 et il y avait une sécheresse invraisemblable qui ravageait les régions françaises. Les gens étaient en disette et à l'époque, Louis XVI disait qu'il fallait augmenter les problèmes de, enfin pas les problèmes, les possibilités de subsistance. Alors, Parmentier était voir le roi et lui a dit, il faut qu'on consomme des pommes de terre, vous allez voir, c'est très très bien. Comment faire consommer une plante que les gens ne veulent pas ? Eh bien, il décide tout simplement, l'année suivante, en 1786, de faire monter la garde autour de cultures de pommes de terre, qu'il a fait autour de Paris, et la garde, curieusement, disparaît la nuit. Mmh. Les gardes s'en vont. Donc les gens se disent quand même, si on garde ces cultures-là, ça doit être bien, chose. Etc. Et ils viennent piquer des pommes de terre pendant la nuit. Et évidemment, ouais. Personne ne dit rien, puisque c'était volontaire. Et du coup, ils trouvent que c'est pas mal, ils se nourrissent, et puis le lancement de la pomme de terre avait été fait. Et donc, Louis XVI dira à Parmentier, la France vous remerciera un jour d'avoir inventé le pain des pauvres.
Et on consommait comment la pomme de terre à l'époque ?
Je pense qu'on la consommait bouillie, comme tout simplement, la plupart voilà. des légumes encore à cette époque-là. Alors je voulais quand même dire que cette idée de ce sujet m'a été soufflée par deux livres qui viennent de sortir et qui sont quand même très intéressants sur le même sujet. Hein, et donc qui sont... que je les retrouve. Voilà, petite et grande histoire des légumes d'Éric Birlouet chez Caé et étonnante histoire de légumes et de fines herbes de Bertrand Dumont aux éditions Multimonde. Donc c'est vraiment des livres dans lesquels il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses que l'on ne connaît pas forcément sur les légumes et je crois que c'est un monde très très passionnant.
7h20, Patrick, on revient dans un instant avec la météo du jardinier et vos questions. Nous aurons Michel qui est à Clermont-Ferrand. Il va nous parler de sa haie qui visiblement n'est pas très en forme. Et puis à tout moment, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas via Direct Studio, votre numéro de téléphone s'il vous plaît. Ça nous facilite la vie et ça vous permettra peut-être de passer à l'antenne dans quelques minutes. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour. Il est 7h moins le quart. C'est RMC, c'est le week-end des experts. Un grand merci à vous d'être là, comme chaque samedi. Tout à l'heure, à partir de 7h, ce sera la maison avec Christian PC. On parlera rideau tout à l'heure avec Christian, entre autres. Mais d'ici là, vos questions jardin au 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Et c'est Michel qu'on accueille tout de suite. Bonjour Michel.
Bonjour, messieurs.
Bienvenue bonjour, Michel, bonjour. De Clermont-Ferrand.
Oui, plus exactement Chamalières.
Chamalières. Oui, écoutez, bien sûr, on connaît bien. Monsieur Giscard est originaire de Chamalières.
Ouais. Alors, son fils est toujours le maire, d'ailleurs.
Très bien.
Mais bon.
Parfait. Je vois que vous connaissez bien votre région, c'est parfait. Mon cher Michel.
Alors, ce qui me préoccupe, effectivement, et merci de me prendre à l'antenne, c'est que j'ai une belle haie de thuyas et j'ai des endroits où les thuyas deviennent un peu orange, marron. Donc, ils meurent. Donc les premières mesures que j'ai prises, c'est de tailler, c'est de couper ces choses-là. Mais ma question surtout, c'est comment on peut faire pour éviter d'avoir à nouveau ce genre de problème. En clair, ces morceaux de tuyas que j'ai enlevés, sont complètement secs. Alors est-ce que c'est une maladie ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
J'ai vu les photos. Bon, sur le symptôme est identique pour deux choses totalement différentes. La première, c'est un insecte qui s'appelle le buprès du thuya, qui est un petit coléoptère qui pond sur les rameaux et dont les larves viennent fabriquer des tunnels dans les rameaux, ce qui entraîne leur dessèchement rapide. Le buprès, c'est pas hyper facile à traiter parce qu'on le voit quasiment jamais. Et aujourd'hui, on n'a plus grand chose comme insecticide. Donc, éventuellement, si c'est cela, bon, pour savoir si c'est cela, il faut quand même couper quelques rameaux et les couper longitudinalement pour voir s'ils ont été creusés. Alors, on peut aussi, sur certaines branches, voir des minuscules trous avec un petit peu de sueur, mais bon, ça, c'est plus compliqué à voir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est assez fréquente également, c'est une maladie cryptogamique qui s'appelle Didymacella tuina, qui est surtout liée à un sol argileux, compact, humide, étouffant. Et donc, si c'est le cas, vous avez plus de possibilités que ça soit cette maladie-là. Elle se traite plus ou moins, je dirais, avec la bouillie bordelaise. De toute façon, on n'a rien d'autre en fongicide aujourd'hui. L'idée étant que il faudrait pas que les tuyas soient plantées, comme d'ailleurs la plupart des conifères, dans des terrains qui soient trop étouffants. Dans les années 70, où ça a été la grande mode des tuyas, on disait « oui, c'est la plante qui s'adapte à tout, qui va dans tous les terrains ». On en a planté un peu tout, partout et n'importe où. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans l'état que vous décrivez et ont ce type de maladie. Donc, malheureusement, bon, au niveau donc des traitements, j'ai pas plus de choses à vous dire, puisque la législation nous a de toute manière tout coupé. Et je dirais, c'est une très vieille haie.
Oui, justement, c'est ce que j'allais. Je voulais pas vous interrompre à l'instant, mais c'est une haie qui, c'est une maison que j'ai achetée il y a quelques années. La haie existait déjà. Donc en fait, c'est une haie qui doit être sans doute née des années 70.
Oui, voilà, c'était bien avant l'époque des tuyas. Franchement, aujourd'hui, si vous voulez mon avis, c'est considéré comme étant totalement obsolète les haies de tuyas, parce que sur le plan écologique, ça apporte rien du tout, dans la mesure où c'est une monoculture et avec donc les problèmes phytosanitaires dont on vient de parler. La deuxième, c'est parce que ce sont des plantes qui de toute façon sont fragilisées, dans la mesure où, dans la nature, les tuyas plicata, notamment ceux qui ont été le plus utilisés pour les haies, sont des plantes qui font, enfin des plantes, des arbres qui mesurent jusqu'à 60 mètres de hauteur. Donc le fait de les limiter à 3 à 4 mètres maximum de hauteur dans les haies, à terme, ça les fatigue, ça les rend beaucoup, beaucoup plus sensibles à tout ce qui peut être bio-agresseur. Et donc, du coup, les plantes sur des haies assez anciennes comme ça, ben, elles dépérissent alors qu'elles ne devraient pas, parce que les tuyas, qui sont originaires de la Colombie-Britannique, quand vous allez du côté de Vancouver, il y a des forêts entières de ces tuyas qui vivent plusieurs centaines d'années. Donc, si je peux me permettre, je vous conseillerais de remplacer cette haie de tuyas, si possible, par un ensemble d'arbustes en mélange, variés, différents, qui, en étant en mélange, donnent moins de possibilités d'agression grave par des ravageurs, parce que bah, si vous n'avez qu'un seul spécimen dans une haie qui est attaquée, bah, vous pouvez le remplacer plus facilement que la haie entière. Le deux, c'est que de toute façon, une haie dans laquelle vous mélangez des feuillus et des conifères, vous allez avoir forcément une activité biologique bien meilleure, au niveau des oiseaux, au niveau des insectes notamment. Et puis, sur le plan purement esthétique, ça n'a franchement rien à voir. C'est-à-dire avoir une haie avec un mélange d'arbustes qui vont évoluer au fil des saisons, ça a un effet décoratif bien supérieur. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
Ok. Le seul inconvénient, c'est que là, elle est relativement longue. Hein. J'en ai à peu près pour 80 mètres.
Ah oui. Mais voyez, 80 mètres de tuya, ça, c'est comme si vous aviez 80 mètres de mur. Si vous remplacez ça par des arbustes en mélange, vous allez avoir 80 mètres de jardin, et de jardin avec des fleurs, de jardin avec des couleurs en automne, de jardin avec des formes d'arbres et de plantes différentes, et ça aura strictement rien à voir au niveau du cadre de vie et du plaisir d'avoir un ensemble beaucoup, beaucoup plus décoratif. Le problème, en revanche, c'est vrai, vous avez raison de le soulever, ça va être de soulever. Ça va être d'arracher toutes ces choses-là, parce que c'est costaud. Oui, bien sûr.
Michel, merci pour votre appel. Et si tout comme Michel, vous voulez joindre Patrick, 3216, oui, Patrick.
Ce conseil-là est valable pour toutes les haies tuya qui se trouvent aujourd'hui dans notre pays.
Parfait. On jette un œil sur les cartes de Météo France. C'est l'heure de la météo du jardinier maintenant, Patrick.
Oui. Alors,
dans ce 14 novembre.
On dit à la Sainte Philomène, souvent l'hiver s'amène.
Ah.
Eh bien, c'est pas le cas.
Bon.
Voilà, je peux vous dire déjà.
Philomène, merci d'être passé.
On va rester dans le Doubs, avec des vents qui vont être plutôt sud.
Enfin, pas dans le département.
Comment ?
On va pas rester dans le Doubs, dans le département.
Ah non, non. Ah, bah, dans le Doubs, en général, c'est là qui fait le plus froid.
Oui, c'est là qui fait le plus froid, c'est ça le paradoxe.
Donc, on est sur des vents sud-sud-ouest qui vont apporter, évidemment, leur lot de précipitations, mais avec des douceurs assez importantes, bon, sauf dans les régions qui, classiquement, ont de toute façon des automnes frais. Hein. Du côté de Gap, on aura peut-être des 1 degré à certains matins de la semaine. Bon, voilà, mais c'est pas inhabituel pour eux. La température va commencer à baisser un peu à partir de mardi, où on aura une moyenne de 7 degrés au lever du jour, mais c'est quand même déjà largement au-dessus de 0 degré. Donc ça veut dire qu'au niveau jardin, si vous avez des agrumes encore dehors, laissez-les, rapprochez-les peut-être un peu de la maison, mais c'est pas la peine de rentrer tout ce monde-là, à moins que vous ayez une serre ou une véranda. On va avoir du mal à vraiment jardiner. Alors, on va pouvoir faire lundi, parce qu'on aura une belle journée, il n'y aura pas beaucoup de pluie, etc. Donc, plutôt lundi. Bon, mardi, il fera un peu plus froid, mais il pleuvra pas encore, donc on pourra continuer à jardiner. Notamment, c'est la bonne période de toutes les plantations, n'oubliez pas, hein, planter à l'automne, c'est très, 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 très bien. Mercredi, c'est le retour des pluies, hein, sauf en PACA. Alors, c'est vrai que la frange méditerranéenne, qui avait été bien arrosée ces derniers temps, va se retrouver de nouveau sous son soleil préféré, et ça va faire du bien. Ailleurs, ben, on va être plutôt dans l'eau. Donc, je dirais, à partir de mercredi, repli stratégique dans la maison. On jardine pas tellement à l'extérieur.
D'accord. Parfait. Est-ce que Jean est avec nous ? Oui, voici notre auditeur, notre dernier auditeur de ce samedi matin. Bonjour Jean.
Bonjour l'équipe.
Bonjour, bienvenue.
Merci de me recevoir encore une fois. Merci.
Merci à vous. On vous écoute.
Alors, il y a plusieurs mois, ou l'automne dernier, j'étais allé me promener dans une forêt de chêne et par terre, il y avait des glands qui avaient germé dans des mardeaux.
Bien sûr.
Donc, j'ai mis ça en terre, dans du terreau. Et c'est sorti, j'ai 4-5 petits chênes dans un grand pot qui sont sortis. Je voulais savoir je peux les garder comme ça un petit moment et les replanter dans des pots plus grands ou en pleine terre après.
Mais bien sûr, bien sûr. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, le repiquage, il faut quand même attendre que la plante, elle ait une dizaine de centimètres de hauteur. Bon, l'idéal, ça serait de laisser passer dans un endroit un petit peu abrité, près d'une haie ou d'un mur, par exemple, votre petite culture en pot pendant tout l'hiver. C'est rustique, hein, de toute façon, le chêne est l'arbre principal de nos forêts. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur l'antenne. Et au printemps prochain, vous pouvez soit les mettre en pot encore pour une saison de manière à ce que la plante puisse s'étoffer. Et dans ces cas-là, ce que l'on fait au moment du repiquage, on coupe le pivot sur un tiers de sa longueur, le pivot étant la racine principale pivotante par définition, donc qui est assez longue de manière à ce qu'il s'adapte mieux dans le pot et que la transplantation soit plus facile. Ensuite, évidemment, c'est une plante d'extérieur et de pleine terre que vous mettrez dans votre jardin. Mais attention, hein, 4 chênes, ça fait une forêt dans un jardin.
Oui, donc, oui.
Mais bon, ça pousse pas non plus à une vitesse phénoménale. Après, il faut savoir que vous pouvez aussi le garder en pot et essayer de vous amuser à en faire un bonsaï. On peut faire des bonsaïs avec des chênes de très très belle facture. Donc ça aussi, c'est une chose, quand on n'a pas beaucoup de place, le bonsaï, ça peut être vraiment une technique intéressante et sympathique.
D'accord. Ah oui, couper le pivot, la racine centrale.
Au repiquage, un tiers, voilà. C'est important.
Donc, actuellement, ils font 6-7 cm. Je pourrais les remettre dans des pots séparés parce qu'ils sont dans un grand pot. Séparés.
Moi, je le ferai pas maintenant. C'est pas la peine. Attendez la mi-mars ou même la fin mars, parce que la plante, là, en ce moment, elle va rentrer en dormance. Hein, donc, les feuilles, comme tous les chênes, donc, tombent par terre. Vous avez plus qu'un petit bout de bois. Si vous le mettez dans un nouveau pot avec un bon terreau, etc.
Il va
se réveiller un peu, donc c'est pas le moment. L'idéal, c'est de le laisser comme ça. Et puis, bon, comme ils sont bébés, si jamais il y a un grand coup de froid, par exemple, et comme ils sont en pot, bah, vous mettez un petit voile d'hivernage dessus pendant la période de grand froid, et puis on n'en parle plus.
D'accord.
Voilà, Jean. Merci beaucoup pour votre appel, Jean, qui nous a contacté au 32-16. Faites de même hein, pour poser toutes vos questions jardin qu'on retrouvera la semaine prochaine. Patrick, pour terminer, vos coups de cœur et avant peut-être de rentrer dans le détail, un mot sur un magnifique ouvrage qui est réédité et qui pourra trôner sous, à mon avis, le sapin pour ce Noël 2020. Il s'agit d'un ouvrage dont vous êtes le co-auteur.
Hein, voilà, le Tour du Monde.
Il s'appelle Le Tour du Monde en 80 plongées, qui est un classique, on va dire, hein, dans ce domaine.
C'est un classique parce que c'est
un livre qui a été réédité.
Dont la première édition date de 1990, donc c'est pas d'hier, et que l'on a remis à jour plusieurs fois au cours des années. Et là, on a une vraie version nouvelle, plutôt un peu plus chic, avec des grandes photos, et surtout, donc mes compères, qui sont des photographes sous-marins remarquables, vous ont mis des photos là-dedans, je peux vous dire, ça fait vraiment rêver.
Voilà.
Et le texte dont je suis l'auteur est plutôt pour vous présenter des lieux magiques au niveau de la plongée, et vous faire partager nos expériences de plongée, et surtout découvrir des êtres sous-marins qui sont souvent magnifiques.
Voilà, parfait pour s'évader alors qu'on est confiné. Hein, ça fait du bien.
Ça fait tourner le monde.
Exactement.
Alors, au niveau des beaux livres, puisque ça fait déjà le Tour du Monde en 80 plongées, fait partie des beaux livres. Wildlife Photographer of the Year 2020. Chaque année, il y a ce livre qui sort avec les meilleures photos de nature au monde. C'est un concours qui est organisé en Angleterre, dans lequel il y a des dizaines de milliers de personnes qui participent de tous les pays du monde, et le livre est le condensé, le concentré des meilleures images. Il y a des choses, tiens, invraisemblables. Là, tiens, je viens d'ouvrir par hasard la page centrale qui s'appelle l'étreinte, où c'est une photo d'un tigre de Sibérie qui est en train de se frotter contre un arbre.
Oui.
Pour faire ce genre d'images, ce sont des exploits techniques invraisemblables.
Et puis les images sont magnifiques.
Voilà, ouais. C'est un livre vraiment qui fera plaisir à tous les amateurs, tous les amoureux de nature. C'est chez Biotope Édition, ça s'appelle Wildlife Photographer of the Year. Et puis on parlait de s'évader. Il y a un livre qui vient de sortir. Alors là, on est plutôt dans le guide. C'est chez le Petit Futé, la Martinique des jardins. Donc vous avez tous les jardins et surtout les plantes, les cultures traditionnelles qui se font dans ce magnifique département. Ça vous donne de la chaleur, ça vous donne de l'exotisme, ça vous donne un peu d'envie de tropique. C'est très précis. Il y a des cartes pour localiser 78 sites à visiter. Donc la Martinique des jardins chez le Petit Futé, c'est tout à fait sympa.
Patrick, merci beaucoup. Prochain rendez-vous jardin, évidemment, samedi prochain entre 6h et 7h. Et dans un instant, on enchaîne avec la maison. Christian PC, bonjour.
Bonjour, bonjour François, bonjour Miu Miu.
Bon,
bonjour,
est-ce que les rideaux sont prêts, Christian?
Bah écoutez, on va pas dire rideaux, bah encore que. Mais oui, on va parler rideaux.
Les tringles aussi.
On va parler tringles, on va parler bar aussi. Vous savez, c'est le fameux coup de bar, quoi. C'est bien connu.
Oui, c'est celui-là.
C'est le matin.
Ouais,
et donc, on va parler aussi de ça.
Parfait.
Et puis on va parler d'électricité.
Bien sûr. Quels sont les points de mise en sécurité d'une installation électrique?
C'est très important.
Voilà. Ouais. Et puis bien sûr vos questions maison au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. La suite dans un instant, juste après la météo et les infos. À tout de suite.